Analysons maintenant ces deux premiers matchs de l'ère Roberto Martinez. Ces deux victoires 4-0 face au Liechtenstein et 6-0 au Luxembourg. Le Portugal version Martinez a affronté les deux nations, surtout connues pour leur classement au PIB par habitant. Mais sur le terrain, c'est bien les Portugais qui ont fait péter la banque.
Boa noite.
Siempre es muy difícil jugar este tipo de partidos, son partidos trampa.
Vai Rafael na área, vai pé direito, vai atirar, ainda arrebatou, golo! 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 A meia dúzia mais barato! Rafael Leão redimiu-se, parecia Maradona! Fintou meio mundo e atirou!
Muito contento, mas é só um início e devemos trabalhar muito para melhorar.
Ce n'était que le Liechtenstein et le Luxembourg, alors qu'il n'avait plus perdu depuis 7 matchs hein, tout de même hein, le Luxembourg, mais le Portugal n'avait plus débuté une campagne de qualif pour un euro par deux succès depuis 1994. Je vous pose la question à tous les trois, les deux Alex et Eric, en un mot, vous retenez quoi de ces deux matchs finalement? C'est difficile de se faire un avis quand on voit la qualité de ces deux adversaires. Alex, Pedro.
Sans frisson, on va peut-être pas avoir peur en qualif pour la première fois depuis 1855. Et ça, c'est un peu nouveau. Parce que Martinez et la Belgique, au moins, il n'y avait pas...
Ça, c'était les qualifs contre Napoléon, ça. C'était...
Ouais, c'est ouais. Ça. Napoléon III. Et il n'y a jamais eu de problème avec la Belgique. C'est, tu vois, tu qualifies au bout de 5 matchs, c'était plié. Donc peut-être qu'on ne va peut-être pas souffrir pour une fois. Pas de, faire de, pas de barrage. Ça va nous changer un petit peu.
Alex Ribeiro, tu retiens quoi, toi, en un mot de ces deux matchs?
Moi, si je dois garder un mot, ça ne va pas plaire à Bruno Fernandes, mais ça serait bouffé d'air frais. Vraiment, je l'ai ressenti.
On va reparler de ça.
Ouais, mais je l'ai ressenti et vraiment, j'ai ressenti du changement et ça fait du bien et à plein de niveaux, donc je suis vraiment satisfait. Même si, voilà, faut relativiser, les adversaires n'étaient pas les plus dangereux qu'on affrontera dans les prochaines années.
Eric,
moi j'ai noté implication et application. Je trouvais que cette équipe-là, en tout cas, elle était cohérente, qu'elle a été, bon, elle a profité aussi, c'est vrai, de la faiblesse des adversaires. Mais en tout cas, c'était une équipe qui voulait en tout cas se montrer déjà à la hauteur, en tout cas des espérances que suscite l'arrivée de Roberto Martinez, en tout cas pour eux, qui est vraiment, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment casser un peu ce qui s'était fait par le passé avec Fernando Santos, et aussi vraiment montrer aussi que peut-être cette équipe, on est au début de la naissance de quelque chose, que même si Fernando Santos a cassé le plafond de verre avec, grâce à ses titres, je pense qu'eux, ils savent très bien qu'entre eux, ils ont une tête autre chose à proposer en termes de jeu et ils vont le montrer à l'avenir, je pense.
Alors, on disait hein, que la liste de Martinez n'avait rien de révolutionnaire, mais son schéma bien que flexible. Hein. Il a employé le mot flexibilité à de nombreuses reprises lors de ses confs de presse depuis qu'il est sélectionneur du Portugal. Bah, ça tranche grandement avec le passé. Il a opté pour un 3-4-3. Cette défense à 3 qui était déjà sa signature avec les Diables Rouges en Belgique. Vous avez pensé quoi de cette tactique? Est-ce que cette défense à 3 centraux est finalement luso-compatible? Alex Ribeiro, tu dis quoi?
Ouais, moi je suis totalement pour. J'ai trouvé que c'était un choix très pertinent et d'ailleurs on était beaucoup à le réclamer depuis pas mal de temps. Tout d'abord parce que c'est un choix que je trouve cohérent sur le court terme avec des joueurs comme Ruben Dias, Danilo et Pep. Ce sont des joueurs qui ont les aptitudes pour jouer dans ce système-là, même si c'est pas forcément là qu'on les a le plus vus dans leur carrière. Mais que ça soit sur les qualités de relance, sur les qualités défensives, leur capacité à pouvoir jouer haut, c'est des joueurs qui sont capables de jouer dans ce schéma-là. Et aussi parce que c'est cohérent avec la nouvelle génération qui arrive. On sait qu'au Portugal, les joueurs sont formés pour jouer au football depuis l'arrière, et on le voit avec les gardiens d'ailleurs. La génération de Diogo Costa, c'est un gardien qui est exceptionnel sur son jeu au pied. Et les défenseurs centraux, c'est un peu la même chose. Quand on voit un Antonio Silva, un Diogo Leite, un Gonçalo Inácio, en plus, les deux derniers ont l'habitude de jouer dans des systèmes à trois avec leur club. C'est des défenseurs centraux qui sont un peu une nouvelle génération, qui sont un peu taillés pour jouer dans un système à trois avec ils sont totalement capables d'apporter au jeu et de faire plus que le travail défensif qu'on pourrait demander à des défenseurs centraux.
Ouais.
Et ça, c'est c'est remarquable et je pense que ce système à trois, il va être à un moment donné totalement en raccord avec la génération qui arrive. Et en plus de ça, ça permet aussi de sublimer les joueurs de couloir, comme on l'a vu notamment sur le premier match avec Cancelo, qui fait un match que j'ai trouvé vraiment remarquable, beaucoup plus libéré offensivement, grâce notamment à ce système à trois. Sur le deuxième match, c'est surtout Nuno Mendes qui s'est démarqué. Et en fait, c'est des joueurs qui sont faits pour jouer sous ce poste de piston plus que dans une défense à 4, dans des postes de latéraux un peu à l'ancienne. Et ça va, le fait de jouer dans un système à 3 comme ça va les libérer, ça va leur permettre d'apporter ce qu'ils ont apporté, quoi.
Alex, Pedro, t'en dis quoi?
Ce qui est marrant, c'est que Cancelo, il a quand même brillé à City dans une défense à 4, mais c'est tellement particulier le poste latéral chez Guardiola que finalement, ça ressemble pas à une défense à 4 classique. Et il est beaucoup mieux, je pense, en sélection, dans un système de piston. Après, moi, le système à 3, parfois, j'ai vu, il y a un côté un peu effet de mode, tout le monde veut faire ça. Dès qu'un entraîneur n'a pas d'idée, il passe à 3.
Après, Martinez, c'est vraiment dans
Martinez,
cette
c'est
habitude.
vraiment son ADN. Donc... Et surtout, la différence par rapport à il y a peut-être 5-6 ans, c'est qu'on a des centraux qui arrivent avec Ignace, avec Silva, Diaz, et Pep qui peut encore nous faire un an ou deux. Donc, on a du monde. Alors qu'il y a 4-5 ans, c'était déjà compliqué d'en trouver deux. Donc là, on en a 3, 4. Et je trouve que ce système-là permet aussi que Bruno Fernandes, Jean-Félix et Bernardo Silva ne se marchent moins sur les pieds que sur un système de 4-3-3. Parce que finalement, même s'ils sont officiellement trois devant, on a bien vu que Félix et Bernardo n'étaient jamais sur leur côté. Alors que sur un système de 4-3-3, les latéraux étant plus bas, ça oblige quand même les deux joueurs de côté offensif à être vraiment en position d'ailier. Là, ils étaient beaucoup dans l'axe, ils ont beaucoup dézoné et je pense que ça leur offrira plus de liberté. Ce système-là, même si effectivement ça donne qu'une pointe, mais de ce que j'ai vu, c'est assez intéressant sur la complémentarité de ces trois joueurs dont j'ai cité là. Là, j'ai trouvé qu'il se marchait moins sur le pied que dans le 4-3-3 de Fernando Santos, ou même le 4-4-2 qu'il avait
C'est intéressant et c'est marrant d'ailleurs que tu parles des attaquants quand on pose la question sur les défenses. Il y a beaucoup d'analyses, je pense à Luis Freitas Lobo dans le jeu, qui a fait justement un édito là-dessus en disant lui, il n'est pas très fan de système et surtout il dit on ne peut pas jauger, c'était que Liechtenstein et Luxembourg, mais il dit finalement ça conditionne le fait qu'on n'ait qu'une seule pointe. Juste pour revenir à ce système à 3, t'en dis quoi toi, Eric? Est-ce que c'est l'uso compatible?
Moi, je pense que c'était l'uso compatible depuis le départ, parce que quand on voit des Gonçalinas qui travaillent dans ce système-là, en tout cas Alexandre l'a dit aussi, parce que vu qu'à City, même si on part sur le schéma de quatre défenseurs, au final, quand on regarde le match, souvent Rubén Díaz, il se retrouve à trois, avec notamment, on le voit, Ake ou Laporte. Donc il y a vraiment, en tout cas, cette idée-là de se dire, ok, il sait jouer aussi à trois, et sans oublier, bah oui, ou Pep, je pense qu'il peut s'adapter à tous les systèmes, parce qu'il est très intelligent. Donc, mais c'est vraiment, ça libère aussi, voilà, les pistons. Je crois qu'on les a jamais vus aussi bien les quatre qui ont joué là sur les deux matchs là, ils ont été à l'aise. Bernardo Silva qui rentre dans l'axe comme le fait à City, c'est aussi voilà, on sent qu'ils ont ça, ils retrouvent quelque part leur ADN de club dans la sélection. Et après, bon, forcément devant, on va dire qu'il y en a un qui est en pâtit, ça on reviendra dessus, mais je trouve que les autres, par contre, se libèrent. Et ça permet, comme tu as dit, Bruno Fernandes, Silva, même João Félix, de bien combiner, en tout cas, déjà avec Nuno Mendes, ou en tout cas avec les coéquipiers, pour vraiment apporter une plus-value. Et je trouve qu'au niveau du jeu, c'est super intéressant et on a vu vraiment de belles choses.
Alors, face au Liechtenstein, Martinez, il a testé Gonçalo Inácio avec Rubén Díaz et Danilo dans cette défense à 3. Contre le Luxembourg, c'était Antonio Silva avec Díaz et Danilo. C'est quoi pour vous le meilleur trio? Sachant qu'il y a un nom que je n'ai pas cité, mais qu'on a déjà cité là, c'est Pep. 40 ans, est-ce qu'il sera dans les plans de Roberto Martinez à l'avenir? Pour l'instant, il n'a pas annoncé sa retraite internationale, hein, Pep, mais c'est quoi pour vous le meilleur trio de défenseurs centraux du Portugal? Alex Ribeiro, tu dis quoi?
Actuellement, je dirais Danilo à gauche, Rubén Díaz dans l'axe et Pep à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire? Est-ce qu'on cherche à se qualifier pour l'Euro ou est-ce qu'on cherche à vraiment préparer l'Euro qui sera dans un peu plus d'un an? Et en vrai, on n'a pas énormément de garanties sur la condition physique d'un Pep d'ici là. Il me semble qu'il aura 41 ans d'ici là. Donc, est-ce que ça ne serait pas le moment de définitivement passer à autre chose et d'intégrer, pourquoi pas, un joueur comme Antonio Silva en tant que titulaire et de sorte à ce qu'il arrive à l'Euro avec des vraies références et des vrais automatismes, d'une part à ce poste, mais aussi avec ces deux associés-là qui seraient Rubén Díaz et Danilo. Je pense que c'est une question qui peut se poser, avec tout le respect que j'ai pour Pep. Mais voilà.
Eric, c'est quoi le meilleur trio pour toi?
Moi, je pense qu'en tout cas, Pep, s'il y en a un qui va décider pour lui, c'est son corps. Et quand on voit ces dernières semaines et ces dernières années, à chaque fois, son corps, même sur les grands rendez-vous, on l'avait avec Porto en Ligue des Champions, là récemment, son corps lui a dit non, stop. Donc je pense qu'à un moment donné, il va.
Quand il n'est pas blessé, il est quand même hyper performant, Pep. Hein,
ouais, mais il n'y a plus cette garantie-là de se dire, en gros, est-ce qu'on le compte sur une compétition d'un mois, alors que tu ne sais pas s'il va peut-être être là ou pas. Alors que si jamais, oui, il faut aussi impliquer les jeunes et leur donner aussi cette expérience-là. Moi, je vois depuis cette année, Gonçalinas qui vraiment a passé, je trouve, un palier et qui est vraiment en train de briller, notamment au Sporting à côté de Coates. Et je pense que ça peut être très intéressant de le voir, moi, sur l'axe gauche, où Daniel, super polyvalent à droite ou à gauche pour compléter. Mais sinon, ouais, Ruben Dias, Antonio Silva, c'est le futur. Et puis, ouais, peut-être même Gonçalinas, ouais.
Alex Pedro.
Moi, sur l'optique de l'Euro, c'est les trois jeunes. Cas, Ignace et Antonio Silva. Danilo, c'est un soldat, c'est un très bon joueur. Et il faudra dans le groupe, il pourra dépanner à tous les postes. Et Pep, je l'adore, je l'aime d'amour. Mais il peut être dans le groupe à l'Euro, capitaine de vestiaire, il peut jouer. Mais là, je pense qu'il faut se projeter sur l'avenir et ces trois-là, c'est l'avenir. Donc, au fur et à mesure, il va falloir leur donner du temps de jeu, des automatismes.
Alors ça, c'est pour la défense. Il y a souvent beaucoup de débats sur le milieu de terrain portugais également, comment jouer avec qui, où mettre Bruno Fernandes, Bernardo Silva, qui sont censés être des leaders techniques. Tu l'as dit tout à l'heure, Alex Pedro, Bernardo a joué finalement faux ailier. Il a été très bon, notamment d'ailleurs face au Luxembourg. Il y a pas mal de journaux portugais qui l'ont mis homme du match. C'est quoi pour vous la bonne formule au milieu? Est-ce que finalement Martinez, il n'a pas trouvé la bonne formule, sachant que là aussi, il faut pondérer compte tenu de la qualité des adversaires. Mais c'est vrai que Pelling, Bruno Fernandes au milieu de terrain, moi, j'ai envie de vous dire, je me suis jamais caché, mais moi, enfin, Palinha joue avec le Portugal, quoi. Eric.
Et justement, on en revient à ce que je disais sur le fait qu'il se retrouve en club. Quand on voit Manchester United en ce moment, quand tu as Casemiro qui est vraiment derrière et Bruno Fernandes, tu sens qu'il a ses, okay, il a ses codes et il sait que Palinha, il peut être dans ce rôle-là un peu de que fait Casemiro avec lui à United. Donc pour lui, ça le libère. Il se sent vraiment dans le cœur du jeu, d'être vraiment le playmaker. Et Bernardo, il peut aussi très bien venir et il ne se marche pas sous les pieds, au contraire. Deux mecs comme ça, aussi techniques qu'eux, bah, ça peut être que du positif pour le Portugal. Et je trouve, moi, super cohérent. Parce que moi, Palinha, déjà, je suis fan. Parce que déjà, à la Coupe du Monde, je pensais que... Enfin, il n'était pas assez... Enfin, on a projeté, j'ai le mot portugais qui me vient, mais on pariait pas assez sur lui. Et là, maintenant, je trouve que c'est intéressant, voilà, de le voir finalement maintenant patron, parce que s'il le met tout de suite là, maintenant, c'est qu'il compte vraiment dessus, qu'il sent qu'avec Fulham, en tout cas, il a passé un palier aussi, et qu'il va encore grandir, et que malheureusement, pour William Carvalho, ça veut dire que c'est un peu derrière. Ruben Neves, il sort d'une saison compliquée, mais vraiment, Palinha, moi, je crois en lui, et je me dis, lui, derrière, en taulier, pour tenir la baraque et tout.
Et Bruno, tu l'as trouvé comment?
Moi, je trouvais dans son rôle, je trouve que voilà, il va être capable sur certains matchs peut-être d'être un peu plus cohérent, un peu plus collectif, et des fois peut-être sortir du lot, d'être le mec qui va t'impulser le but. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'il va être intelligent dans le rôle que va lui donner un peu
Martinez
dans les temps. Je pense un peu le Kevin De Bruyne portugais.
Carrément, ouais.
Ouais.
Okay, pourquoi pas. Alex Ribeiro, qu'est-ce que t'en penses toi des milieux de terrain, de l'utilisation de ces milieux de terrain dans ce nouveau système justement?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu sur ces deux matchs et je trouve que la complémentarité entre Palinha et Bruno Fernandes est très bonne. Bruno Fernandes, c'est un joueur qui a énormément dézoné, qui est en recherche constante de liberté et d'espace. Et Palinha, c'est un peu le joueur qui va compenser tout ça, qui va couvrir énormément de zones et qui a une intelligence tactique très importante qui lui permet d'équilibrer le bloc systématiquement, même quand son coéquipier dézone énormément. Donc, ce duo-là, il va très bien. Maintenant, quid de Bernardo Silva, et c'est un peu le point d'interrogation que je peux mettre. On l'a vu un peu plus haut sur ces deux matchs, et j'ai tendance à dire que quand on le voit dans cette position-là, certes, il a énormément de qualités, je vais revenir là-dessus, mais on se prive aussi d'autres qualités. Il touche beaucoup moins de ballons quand il joue un peu plus haut, et lui qui aime avoir le jeu face à lui, organisé, et avoir vraiment les clés du jeu, il ne peut pas forcément le faire quand il est... dans une position un petit peu plus excentrée. Mais de l'autre côté, j'ai tendance à me dire que c'est peut-être le joueur de la sélection actuellement qui est le plus apte à tenir ce rôle-là, parce qu'il déjà il est gaucher et le fait de jouer un peu excentré droit, c'est super intéressant pour les dynamiques qu'on connaît dans le foot moderne. Et il y a une vraie complémentarité aussi avec Cancelo. On a vu que Cancelo, c'est aussi un joueur qui peut parfois prendre le couloir, mais qui aime aussi toucher l'intérieur du jeu. Et Bernardo Silva, il a l'intelligence tactique de toujours se déplacer en fonction de Cancelo et en fonction de son latéral pour laisser l'espace pour que Cancelo puisse s'exprimer dans le couloir comme il aime le faire. Et il y a une vraie complémentarité entre les deux qui peut être trouvée, qui peut être hyper pertinente pour la sélection.
Je vais dire la même chose, donc c'est pas très bon pour faire des émissions de radio. Je suis d'accord sur. J'adore Jean Palin, enfin Palin, parce que déjà, il est pas stinguiste. Et c'est un joueur qui a énormément progressé techniquement depuis 2-3 ans. Avant, c'était un joueur qui était très fort de la tête, qui avait de l'impact. Au niveau des pieds, c'était moyen. Et là, il a quand même franchi un pas. Et surtout, William, c'est un très bon joueur, un bien meilleur joueur de ballon que Palin, mais je trouve qu'il portait trop le ballon, il ralentissait le jeu. Alors qu'à ce poste numéro 6, il y a besoin de quelqu'un qui prend le ballon, qui le donne. Et après, avec Bruno Fernandes et Bernardo Silva, il y a de quoi faire techniquement. Et après, sur Bruno Fernandes et Bernardo Silva, moi, je pense qu'ils peuvent aussi intervertir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas interdit qu'un Bruno Fernandes, il prenne le côté droit, que Bernardo revienne un peu plus dans l'axe. Ça peut bouger, c'est pas figé. De voir, il le faisait en équipe de Belgique. Parfois, il était sur un côté, parfois, il était plus dans l'axe. Donc ça, c'est des choses qui peuvent bouger. Donc, tant qu'on joue dans ce schéma-là, je vois pas trop ce qu'on peut changer au niveau des hommes. La question, on viendra qu'on parlera de Ronaldo, c'est ça, c'est le poste de neuf, qui peut faire beaucoup changer beaucoup de choses. Hein.